Voici les deux textes liturgiques pour ce premier dimanche de carême. L'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il a dit « Au temps favorable, je vous ai exaucé, et au jour du salut, je vous ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne donnons à personne aucun scandale, afin que notre ministère ne soit pas décrié. Mais montrons-nous en toutes choses comme des ministres de Dieu par une grande patience dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la chasse, par la chasteté, par la science, par la longanimité, par la bonté, par les fruits de l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la force de Dieu, par les armes de la justice à droite et à gauche, dans la gloire et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation comme des séducteurs et pourtant véridiques, comme inconnu et pourtant bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié mais non mis à mort, comme triste et toujours dans la joie, comme pauvre et enrichissant beaucoup d'autres, comme n'ayant rien et possédant tout. On se lève pour l'Évangile. Suite de saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il est jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approchant lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a donné des ordres à ses anges à votre sujet, et ils vous porteront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit, « Je vous donnerai toutes ces choses si, vous prosternant, vous m'adorez. » Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent et le servirent. Veuillez vous asseoir. Des annonces avant le sermon. Donc n'oubliez pas que nous sommes en carême. Alors cette semaine, attention, il y a les quatre temps. Donc mercredi, vendredi et samedi. Donc pour les quatre temps, se rajoute au jeûne, qui doit être suivi par tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, un repas par jour, se rajoute au jeûne l'abstinence. Donc il y a abstinence aussi pour tous ceux qui ont l'âge de raison, en plus du jeûne, pour ceux qui ont entre 21 et 60 ans, mercredi, vendredi et samedi. Pas oublié. Cet après-midi, donc pour ceux qui éventuellement pourraient être intéressés, qui habiteraient dans le coin, donc tous les premiers dimanches du mois, je célèbre une messe maintenant près de Clermont-l'Hérault, pas très loin de Montpellier, à Nissas. Donc s'il y en a qui sont intéressés, qui m'écoutent sur Internet, qui me contactent par téléphone, je leur expliquerai. Mercredi, attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine, mercredi la messe aura lieu à 8h. Au niveau des retraites, donc je rappelle que la retraite de semaine sainte est pleine, la retraite de juin est pleine. Je voudrais bien essayer de remplir la deuxième retraite d'avril, du 25 au 30 avril, parce que j'ai, je crois, 3 ou 4 inscriptions simplement, je peux encore en prendre 2 ou 3. Donc s'il y a des gens qui m'écoutent sur Internet qui sont intéressés par cette retraite, donc contactez-moi assez vite pour que je puisse justement m'organiser plus facilement. Avant le sermon, je voudrais faire une petite mise au point pour aider ceux qui m'écoutent surtout sur Internet. J'ai eu quelques personnes qui me téléphonent pour dire « Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ?» Moi, je ne suis pas un géopoliticien, pas du tout, je suis prêtre. Donc je voudrais en quelques minutes, parce que je vais être très court là-dessus, essayer de... Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de réagir comme catholique. Et je vous ai simplement quelques mots pour vous aider ceux qui m'ont posé ces questions à réfléchir un peu. Et après, c'est à vous de continuer cette réflexion et d'étudier. Bon, pour première réflexion, beaucoup de gens nous disent, monsieur l'abbé, à propos de la guerre d'Ukraine, toute guerre est mauvaise. C'est faux. N'oubliez pas que notre Seigneur, quand il est apparu à Sainte-Jeanne d'Arc, il lui a demandé d'aller faire la guerre. Il est devenu chef de guerre hein, pour bouter les Anglais hors de France. La guerre de Vendée était une sainte guerre.
la part des catholiques. La guerre des cristeros au Mexique était une sainte guerre. Vous voyez, donc il faut faire attention à ne pas dire des bêtises comme ça. On entend ça beaucoup trop souvent. Il y a des saintes guerres. Je ne dis pas, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que la guerre d'Ukraine actuellement est systématiquement une sainte guerre. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut bien avoir l'esprit catholique. Deuxième réflexion qu'on entend beaucoup trop souvent, les gens me disent, monsieur Lebey, il y a deux camps. Il y a le camp de l'OTAN, c'est le bien, et le camp de la Russie, le mal. C'est un peu simplifier les choses. Il ne faut pas oublier que le camp de l'OTAN, c'est d'abord le camp du grand reset, comme on dit. C'est le camp ce mondialisme absolument invraisemblable. Donc il faut faire encore une fois, je pense, un petit peu attention à ce qu'on dit. Je voudrais simplement faire quelques petits rappels. Donc ce camp de l'OTAN, c'est encore une fois le camp du protestantisme officiel, le camp du nouvel ordre mondial. Hein, l'OTAN a fait quand même 14 500 morts en Libye, 165 000 morts en Afghanistan, 220 000 morts en Serbie, 224 000 morts en Syrie, 1 200 000 morts en Irak. Et on peut rajouter, faire une longue liste. Et c'est bizarre, mais là, ça choquait personne. Vous voyez ? Je pense qu'il faut encore une fois faire attention. Aussi, autre bêtise qu'on peut entendre, des gens qui voudraient littéralement canoniser M. Poutine. Bon, M. Poutine n'est pas un Saint Jean d'Arc ou un Saint Louis. Il faut peut-être faire encore une fois attention à ce qu'on dit. Cependant, aussi pour vous aider, c'est des pistes de réflexion. Après, c'est à chaque fidèle de commencer à étudier un petit peu l'histoire, avoir les mêmes, d'aller chercher les renseignements dans les médias, pas dans les médias officiels. Il faut bien vous mettre une chose dans la tête, c'est tout ce que vous entendez par les médias officiels, les journaux officieux, la radio, la télévision, c'est mensonge, mensonge, mensonge. Donc c'est à vous de travailler, vous voyez. À vous de travailler pour aller chercher tout ça. Aussi, une des choses qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a une grosse histoire d'argent. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens ont un mal fou à comprendre cela. Il ne faut pas oublier que la guerre, par exemple, en Libye, avait pour but de renverser Kadhafi. Pourquoi ? Parce que Kadhafi voulait sortir de l'influence du dollar. Il voulait mettre toute l'Afrique sous adosser l'argent de toute l'Afrique adossé au dinar or. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelques jours, Poutine en Russie a décidé d'adosser le rouble au lingot d'or. Ça explique beaucoup de choses. Et je voudrais terminer par un texte très intéressant qu'on m'a donné. Je ne vais pas vous le lire en entier, je vais vous lire certaines parties qui est, à mon avis, très intéressante, qui jette une lumière pour nous aider à comprendre comme catholiques. Et c'est un texte qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Alexandre Douguin, un russe. Et ceci nous aide à comprendre aussi, encore une autre objection à laquelle je voudrais répondre, je vais terminer par ça. Les gens nous disent, mais Poutine a commencé la guerre. La guerre en Ukraine, ça fait 8 ans qu'elle dure. Ça fait 8 ans que le gouvernement de Kiev bombarde les Ukrainiens du sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass. Il faut mettre tout ça en jeu, oui, pour arriver à essayer de juger comme un catholique doit juger. Notre but, c'est d'arriver à apprendre à juger droit. Voilà ce que dit Alexandre Douguin. Je vous lis simplement quelques lignes. Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une confrontation contre le globalisme en tant que phénomène planétaire intégral. C'est une confrontation à tous les niveaux, géopolitique, idéologique. La Russie rejette tout dans le mondialisme, l'unipolarisme, l'atlantisme d'une part, le libéralisme, l'antitradition, la technocratie, en un mot, le grand reset, et d'autre part. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie de rompre avec l'Occident? Écoutez bien, c'est le salut. L'Occident moderne, où triomphent les Rothschild, les Soros, les Schwab, les Bill Gates, les Zuckerberg, est la chose la plus dégoûtante de l'histoire du monde. Ce n'est plus l'Occident de la culture méditerranéenne gréco-romaine ni le Moyen-Âge chrétien. C'est un cimetière de déchets toxiques de la civilisation. C'est l'anti-civilisation. Et plutôt et plus complètement la Russie s'en détache, plutôt elle revient à ses racines. À quoi ? Aux racines chrétiennes, gréco-romaines, méditerranéennes, européennes. C'est-à-dire aux racines communes du véritable Occident. Ces racines, les leurs, l'Occident moderne les a supprimées. Et elles sont restées en Russie. Encore une fois, il faut dans ça pour vous faire réfléchir.
La rupture avec l'Occident n'est pas une rupture avec l'Europe, c'est une rupture avec la mort, la dégénérescence et le suicide. Bon, après, ça sert encore une fois à chacun d'entre nous de réfléchir un petit peu sur ces choses-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, à la suite de ce que je viens de vous dire, n'oublions pas qu'on peut vraiment diviser le monde en deux parties. On peut diviser le monde en la première partie qui adore l'homme et une deuxième partie qui adore Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui adore l'homme et un tout petit groupe qui adore le bon Dieu. Ceux qui adorent l'homme, toute c'est même pas une civilisation, c'est un ersatz de civilisation, si vous voulez. Tout est basé, pour ceux qui adorent, l'armée qui adore l'homme, tout est basé sur deux choses. Bien comprendre ça. L'orgueil, et la conséquence de l'orgueil, le désir de jouissance. Au contraire, pour ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, tout doit être fondé sur deux choses, l'humilité et l'esprit de pénitence. Et ça, c'est très important, justement, en début de carême. Le carême, c'est un temps de pénitence. Qui dit temps de pénitence, dit temps de grâce. Qui dit temps de grâce, dit temps où la miséricorde de Dieu est plus facilement accessible. On peut comparer, si vous voulez, le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, un coffre. Un coffre-fort. Pour ouvrir ce coffre-fort, il faut une clé. Il faut une combinaison qu'il faut connaître. Eh bien, la clé pour ouvrir le coffre-fort, la combinaison pour permettre l'ouverture du coffre et de la miséricorde du bon Dieu, c'est l'esprit de pénitence. Attention, je dis bien l'esprit de pénitence, la vertu de pénitence. Il y a des gens qui font pénitence sans esprit de pénitence. Et il y a des gens qui ont l'esprit de pénitence et qui ne font pas de pénitence physique. L'esprit de pénitence, c'est quoi? L'esprit de pénitence, c'est, si vous voulez, la raison pour laquelle je fais pénitence. Imaginez quelqu'un qui dise, voilà, c'est le carême, j'ai décidé de perdre 15 kilos pendant le carême parce que j'ai un peu trop de poids, donc je vais perdre du poids. Est-ce que c'est une pénitence, ça? Physiquement, oui, c'est une pénitence. Il y a l'esprit de pénitence? Aucun. Par contre, quelqu'un qui a compris ce qu'est le carême, un moyen de s'approcher plus facilement de la miséricorde du bon Dieu, là, il y a l'esprit de pénitence. Donc il faut, je crois, bien comprendre ces choses-là. Je voudrais essayer de développer ces points-là tout simplement pour vous aider à réfléchir encore une fois. Le serment, c'est fait pour commencer à élever l'âme, mais après, c'est à vous, pendant la semaine, de réfléchir un petit peu à tout ça. L'esprit de pénitence amène quoi? L'esprit de pénitence, donc, permet de lutter contre l'esprit de jouissance. Il est impossible de détruire l'esprit de jouissance sans l'esprit de pénitence. L'esprit de jouissance, c'est quoi? C'est les trois concupiscences. C'est la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil, la concupiscence de la chair. C'est l'évangile d'aujourd'hui, tentation d'aujourd'hui. Le démon qui mène notre Seigneur Jésus-Christ au haut du temple, au haut de la montagne, et qui lui propose de changer les pierres en pain, c'est les trois concupiscences qui sont représentées là. Et donc pour lutter contre cet esprit de jouissance qui a détruit complètement la civilisation catholique, pour détruire cet esprit de jouissance, il faut l'esprit de pénitence. Sans esprit de pénitence, on ne peut pas détruire l'esprit de jouissance. Alors, si je commence à détruire l'esprit de jouissance, si vous voulez, est difficile à détruire. Parce que l'esprit de jouissance va entraîner une de ses conséquences, c'est la destruction totale dans notre esprit de l'idée même d'adoration de Dieu. Une des choses qui me frappe le plus dans le monde moderne, c'est la destruction, l'absence totale d'adoration. L'idée que l'homme, étant créé par Dieu, étant créature, a un devoir d'adoration, ça ne passe plus dans le monde moderne. Je donne un exemple tout simple. Quel est le symbole, moi dans l'église romaine, quel est le symbole de l'adoration? La génuflexion. La génuflexion est le symbole de l'adoration. Je me mets à genoux, je fais une génuflexion pour marquer que la personne devant laquelle je fais cette génuflexion est Dieu. C'est quand on fait la génuflexion, on fait la génuflexion à l'autel et plusieurs fois pendant la messe. Plusieurs fois pendant la messe, le prêtre va répéter cette génuflexion.
Bien, oui, une des choses qui m'a le plus frappé dans l'église moderne, l'église de Vatican II, c'est la destruction totale de la génuflexion. Pour la mort de mon père, j'ai dû assister à la nouvelle messe. J'étais parmi les fidèles. J'ai assisté à la nouvelle messe parce que c'était la mort de mon père. Je pensais que mon devoir d'État était là. Et ça m'a frappé. Pas une seule génuflexion du prêtre pendant la messe. Rien. Oui, donc la génuflexion, justement, permet, marque cette adoration. Il faut reprendre. Je vous ai déjà souvent expliqué, je m'excuse d'insister, que les points sur lesquels nous devons le plus insister sont les points qui sont les plus attaqués par nos ennemis. Donc attention à la génuflexion. Bon, bien sûr, il y a des gens qui, pour des raisons physiques, ne peuvent pas faire une génuflexion, entre autres ceux qui ont un genou compote comme moi. Bon, mais c'est très important cela. Reprendre l'esprit d'adoration. Deuxième exemple, pour vous aider à comprendre. La génuflexion est un acte d'adoration. Il est associé au silence. Au silence. Avant, même les païens avaient compris ça. Aujourd'hui, des choses qui ont complètement disparu dans l'esprit des gens. Le silence dans la chapelle. C'est une chose, encore une fois, qui m'a frappé. Et ça me frappe à chaque fois, par exemple, que je fais un enterrement. Parfois, je fais des enterrements, ça m'arrive. Ça m'arrive plusieurs fois dans ma vie de prêtre, en 42 ans, de devoir enterrer des gens. Parfois même dans les chapelles de tradition. Mais souvent, aux enterrements, nous avons des gens qui ne sont pas catholiques, des amis de la famille, par exemple, qui viennent assister à l'enterrement, ou des gens qui sont catholiques, mais qui ne pratiquent plus du tout depuis plusieurs années. Mais à chaque fois, il fallait que j'intervienne, alors que j'étais en train de m'habiller pour préparer, avant de célébrer la Sainte Messe, la messe d'enterrement, chaque fois, il fallait que j'intervienne pour rappeler aux gens qui étaient là, attention, vous êtes dans une église devant le bon Dieu, on se tait dans la chapelle. Les gens regardaient avec des yeux ronds. Et c'est ce qui me frappe le plus dans les chapelles modernes. Les gens parlent là-dedans comme s'ils étaient sur une place de marché. Pourquoi? Encore une fois, parce que le silence permet l'écoute de Dieu. Le démon a parfaitement compris ça. Et pour empêcher les gens d'écouter Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent les gens dans le bruit constamment. Civilisation moderne, l'absence de civilisation moderne, c'est justement ça. Le bruit constant, constant, pour empêcher l'idée même d'adoration. Deuxième chose, qui est une conséquence encore de cet esprit de carême dont je vous parle maintenant, avec l'adoration, c'est le remerciement. Ça va remercier Dieu. Il faut remercier Dieu pourquoi? Il faut remercier Dieu parce qu'il a accepté d'envoyer son propre Fils, s'unir à notre nature humaine par le mystère de l'incarnation, pour mourir sur la croix par le mystère de la rédemption. Apprendre à remercier Dieu. Et comment ce mystère de la rédemption qui nous rappelle tout ce que nous devons faire sur la terre? Comment ce mystère de la rédemption est-il manifesté pour nous chaque jour? Par le signe de croix. L'adoration symbolisée par la génuflexion, le remerciement est symbolisé par le signe de croix. Faites correctement votre signe de croix. À chaque fois qu'on fait un signe de croix, on se rappelle que c'est par la croix que nous avons été rachetés. On se rappelle que c'est par la croix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Et là, encore une fois, c'est des choses qui me frappent dans le monde moderne. Cette espèce de haine de plus en plus claire contre la croix. Regardez, partout, les croix sont déposées malheureusement. Et dans l'Église moderne, pareil, le signe de croix n'a pas complètement disparu, mais pratiquement. Et quand je demande à... Parfois, je suis avec des catholiques un peu modernes et que je fais un signe de croix devant une croix, devant un calvaire, par exemple, parce que je suis avec eux, et ils n'osent pas faire un signe de croix en public. Et ils me disent, même sur l'abbé, le signe de croix en privé, pas en public. Pourquoi? Notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort en privé ou il est mort en public? Il est mort en public pour chacun d'entre nous. Vous voyez? Ce sont des choses très importantes à comprendre. Après l'adoration, manifestée par la génuflexion, par le silence, après le remerciement, manifesté par le signe de croix, donc à chaque fois que vous faites un signe de croix, pensez à ça. Faites un signe de croix, merci mon Dieu parce que vous êtes mort sur cette croix que je viens de tracer sur ma poitrine. Ensuite, il y a la demande. Qu'est-ce qu'il faut demander au bon Dieu? Eh bien, c'est une chose, encore une fois, très importante que les gens ont un mal fou à comprendre. Il ne faut pas demander ce qui nous plaît. Mon Dieu, je veux ça, ça et ça. Non. Quelle est la vraie demande du catholique? La vraie demande du catholique consiste à dire au bon Dieu, « Mon Dieu, faites-moi la grâce de vous demander ce que vous voulez pour moi. » Pas pareil. Faites-moi la grâce de demander ce qui vous plaît à vous. Qu'est-ce qui vous plaît, mon Dieu?
Et faites-moi demander, vous demander, la grâce de demander ce que vous voulez pour moi. Quelle est la vertu particulière que vous voudriez que je pratique? Quel est le défaut particulier que vous souhaiteriez que j'élimine dans ma vie de tous les jours? Et profitez du carême pour justement demander, poser cette question à mon Dieu. Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je demande? Donc la prière, c'est ça. La prière, c'est pas seulement un acte d'adoration, un acte de remerciement, c'est aussi une prière de demande. Ce qu'on appelle la fin impétratoire de la prière. Donc il faut savoir adorer, il faut savoir remercier, il faut savoir demander, il faut savoir offrir aussi. Savoir offrir. Ah, monsieur l'abbé, qu'est-ce que j'offre? Bon Dieu, j'ai rien à offrir. C'est ce que vous allez offrir, ce que nous allons offrir. Vos misères, nos misères et nos péchés. On ne pense pas offrir ces choses-là. Mais monsieur l'abbé, est-ce que vous croyez que le bon Dieu va être content si je lui offre mes misères et mes péchés? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Pourquoi est-ce que le bon Dieu est venu sur la terre? Est-ce que vous croyez que le bon Dieu est venu sur la terre pour les bien portants? Il le dit expressément, je suis venu sur la terre pour les malades spirituels. Dire ceux qui sont dans la misère morale, ceux qui sont dans le péché. C'est pour eux que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc on peut et on doit offrir au bon Dieu toutes nos misères, physiques, morales, psychologiques, nos misères de toutes sortes, et nos péchés. Évidemment, pas un acte d'amour. Si vous offrez vos péchés au bon Dieu, et si nous offrons nos péchés au bon Dieu en lui disant, voilà mon Dieu, je vous aime bien, je vous appelle péché, mais j'ai bien l'intention de continuer de vivre dans le péché. Évidemment, c'est l'hypocrisie pure et simple. Offrir ses péchés avec le désir d'arrêter de pécher. Notre Seigneur Jésus-Christ, justement, est plein de miséricorde envers le pécheur repentant. Il ne va pas exercer sa miséricorde envers quelqu'un qui ne veut pas regretter ses péchés. On le voit très bien au pied de la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ va pardonner à Saint Dismas, au larron repentant, mais pardonne pas à l'autre. Gestas. Et si Gestas avait prononcé la même parole que son confrère a prononcée, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, on aurait un Saint Gestas aujourd'hui. On a un Saint Dismas, on n'a pas de Saint Gestas. Parce que justement, il n'a pas voulu utiliser la miséricorde. Enfin, dernière chose qu'il nous faut faire pendant le carême, après l'adoration, le remerciement, la demande, l'offrande, il faut aussi prendre quelques résolutions. Alors ça, c'est à chacun d'entre nous de choisir quelque chose pendant le carême, prendre quelques résolutions justement qui s'appliquent pendant le carême. Entre autres, augmenter un peu l'esprit de prière. Même si vous ne pouvez pas venir à la messe en semaine, pour ceux qui habitent loin, ce n'est pas toujours possible, pour des raisons professionnelles ou familiales, il y a tous les jours sur votre missel, pour chaque jour de carême, une messe différente. Le conseil que je vous donne, c'est de lire tous les soirs la messe du jour, du carême. Lisez les textes liturgiques de la messe du jour. Ça peut déjà beaucoup vous aider. Faire des petites pénitences aussi. Petites pénitences discrètes. Il ne faut pas sonner la trompette. Attention, je fais pénitence, que tout le monde m'applaudisse. Non, ce n'est pas ça. Pénitence discrète. La cuisinière fait un bon repas, un bon plat. Ah, j'aimerais bien prendre une deuxième part. Ah, bon. Eh bien, je ne vais pas en prendre. Mon Dieu, je vous l'offre. La cuisinière oublie le sel. J'aimerais bien avoir un peu de sel. Ben, mon Dieu, je ne demande pas de sel. Et puis la cuisinière, elle a raté le plat. C'est pas très bon. Mais je fais exprès de me servir. Vous voyez, des petites choses comme ça. Dans la journée, on peut essayer de vous obliger tous les jours à faire un petit sacrifice. J'ai envie d'étrangler mon voisin. Eh bien, je fais un sourire. J'ai envie de me révolter contre telle chose. Eh bien, je dis, mon Dieu, je vous l'offre. Tout petit sacrifice comme ça. C'est ça qu'il faut faire dans la journée. Vous voyez ? Autre exemple de pénitence qu'on peut faire facilement, c'est évidemment, bon, j'aime pas trop considérer la prière comme une pénitence, parce que la prière, on ne prie pas par pénitence, mais quand même, de se promettre au bon Dieu, au moins pendant le temps du carême, de dire son chapelet tous les jours. Faire un effort pour venir à la messe pour ceux qui peuvent, pendant la semaine. Vous voyez, c'est cet esprit de pénitence qui ouvre encore la porte du Sacré-Cœur. C'est cet esprit de pénitence qui me permet de détruire l'esprit de jouissance et l'orgueil, qui est à la base de l'esprit de jouissance.
Mais l'orgueil, l'esprit de jouissance, l'égoïsme, ces trois choses sont unies. En face, vous avez l'esprit de pénitence, l'humilité et l'obéissance. Donc l'humilité, l'esprit de pénitence, l'obéissance sont les vertus principales des soldats qui adorent Dieu. Au contraire, l'esprit de jouissance, l'orgueil, l'égoïsme sont les vices qui sont pratiqués par tous les soldats qui adorent l'homme. Autre point, je vais finir par ça, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Autre point important pour bien comprendre l'esprit du carême. Vous avez un texte magnifique. J'aime bien utiliser ce texte quand je prêche pour le mercredi décembre. Cette année, je ne l'ai pas fait, mais c'est un texte du prophète Joël. Au mercredi décembre, vous avez une épître du prophète Joël, un petit prophète, un des 12 petits prophètes qui est très peu utilisé dans la liturgie. Je crois qu'il y a 3 passages de Joël dans la liturgie. Joël dit, Saint Joël dit qu'il faut se convertir. Mon Dieu, convertissons-nous parce que vous êtes bon, compatissant et riche en miséricorde. Convertissons-nous. Ça veut dire convertissons-nous. Convertir en latin. Se tourner vers. Mon Dieu, tournez-vous vers moi pour que je puisse me tourner vers vous. Est-ce qu'un homme, un chrétien, peut se tourner vers le bon Dieu par ses propres forces? Impossible. Il faut que Dieu d'abord se tourne vers nous pour qu'à mon tour, je puisse me tourner vers Dieu et lui demander ce qu'il veut que je lui demande. Et pourquoi il faut nous tourner vers le bon Dieu? Parce qu'il est bon. On pourrait croire... certaines personnes comprennent mal ces textes. Ils disent, il faut se tourner vers le bon Dieu parce que Dieu est un Dieu de justice qui va envoyer en enfer tous les pécheurs. Ce n'est pas ce que dit le texte de Joël. Convertissons-nous au bon Dieu parce qu'il est bon. Il est bon avec les pécheurs repentants. Il est plein de bonté avec chacun d'entre nous. Il est aussi compatissant. Ça veut dire quoi, compatissant? Compatissant, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui veut souffrir pour nous. Cum patere en latin. Patere, c'est souffrir. Cum avec. Dieu veut souffrir avec nous. Et pour nous encourager à l'esprit de pénitence, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre l'exemple. Il souffre pour nous. Il porte la croix. Pourtant, il est innocent, il ne serait pas obligé de la porter, la croix, puisqu'il n'a jamais péché, lui. Dieu porte la croix pour nous aider à faire pénitence. Nous expliquer, voilà, tu ne veux pas faire pénitence alors que tu es coupable. Moi, je suis innocent et je porte la croix pour toi. Et toi, au bout de la croix, tu dois m'aider. Entre les deux, je mets la Sainte Vierge. Donc, en suivant notre Sainte Vierge Marie, on suit notre Seigneur Jésus-Christ. En suivant notre Seigneur Jésus-Christ, on suit la croix. Et en suivant la croix, on arrive au calvaire. Et le calvaire, c'est là où il y a le salut. Le salut des hommes. Le salut des hommes, c'est la croix. Le salut des hommes, c'est le calvaire. Pour ça qu'on dit que la prière a une valeur propitiatoire. Pour se rendre Dieu propice à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le calvaire. Et enfin, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit le prophète Joël, est riche en miséricorde. On retrouve la même idée, la miséricorde. Les textes du carême, quand vous savez les lire dans le bon sens, ils parlent presque tous de la miséricorde. La miséricorde du bon Dieu à l'égard du pécheur repentant. La miséricorde du bon Dieu pour nous aider à regretter nos péchés. La miséricorde du bon Dieu pour arriver à ne pas se décourager dans la pagaille du monde moderne. La miséricorde du bon Dieu aussi pour nous aider à utiliser correctement notre intelligence pour que nous apprenions à penser droit. La miséricorde du bon Dieu pour que nous utilisions notre volonté pour faire ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi les gens sont malheureux? Les gens sont malheureux dans le monde moderne parce que même les catholiques, ils demandent au bon Dieu ce qu'ils veulent eux. Ils ne pensent même pas à demander au bon Dieu, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Seigneur, que voulez-vous que je fasse? C'est saint Paul qui, sur ce chemin de Damas, vient d'être foudroyé par la grâce. Un des plus grands ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pensait qu'à une seule chose, c'est emprisonner tous les catholiques sur lesquels il pouvait mettre la main. Il est précipité de son cheval par la force du bon Dieu. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à
à vraiment faire un bon carême. Encore une fois, le carême est le temps des grâces par excellence. Le carême est le temps de la miséricorde du bon Dieu. On ne cherche qu'à une seule chose, c'est de nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin, pour ne pas nous décourager. Dieu sait si nous en avons besoin aujourd'hui, pas nous décourager. Alors supplions notre Sainte Vierge Marie, puisque n'oublions pas que le bon Dieu a voulu que toutes les grâces passent par elle. Demandons à notre Sainte Vierge Marie justement de nous aider à ne pas nous décourager, augmenter en nous cet amour du bon Dieu, avoir cet esprit d'adoration, cet esprit de remerciement, cet esprit de demande, cet esprit d'offrande, cet esprit de sacrifice, pour que justement nous puissions un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thank you.